Polysécure, épisode technique, je suis accompagné de Frédéric. Comment vas-tu?
Très bien, ça faisait longtemps.
Ça faisait très longtemps, puis il y a tellement de choses qui sont passées depuis, tu n'es plus au même endroit depuis la dernière fois qu'on a enregistré ensemble.
Et oui, effectivement. Donc c'est ce qui explique un peu qu'on ne s'est pas beaucoup vu hein, ces derniers temps. Je suis retourné en France, déjà, et j'ai terminé mes activités au sein de Glimps, que j'étais allé exporter au Canada. Donc ça continue, hein, ça continue aussi au Canada, etc. Ensuite. Et notamment pour retourner plus à la technique. C'est vrai que dirigeant d'entreprise, c'est quand même pas tout à fait le même métier. Quand on a plutôt un profil scientifique comme le mien, c'est sympa. Hein. Enfin voilà, je me suis éclaté. J'ai fait énormément de choses très très chouettes. Notamment justement toute la découverte du Canada, de son écosystème et d'un certain nombre de personnes avec qui j'ai gardé contact, notamment quand ils viennent nous voir en France. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que voilà, l'attrait de la recherche et de la science, de la technique, même d'une manière générale, j'ai envie de dire, m'a ramené en l'occurrence au ministère dans lequel j'étais avant, au ministère des Armées, en France, au sein de l'AMIA, donc Agence pour la maîtrise de l'IA de défense, qui a été créée donc en 2024, hein, donc quand j'étais justement au Canada. Et je me suis dit, oh là, il y a une dynamique, on va dire, pas inintéressante, pas mal de choses à faire. Et donc, j'ai réintégré ça l'année dernière, en fin d'année dernière, sur un poste vraiment technique, hein, pour le coup. Donc maintenant, je suis les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, tous les jours.
Le retour dans le cambouis.
Voilà, oui. le retour dans le cambouis.
Oui, puis on s'est croisé justement à l'European Cyber Week. Ça a été très agréable de se revoir à ce moment-là. Et dont le sujet que tu vas aborder aujourd'hui, le training less ou training free AI, qui est une approche différente de ce qu'on voit beaucoup sur le marché. Puis je vais te laisser partir avec ça.
Eh bien, exactement. Hein, donc là, petit sujet. Hein, je dirais que c'est mon sujet de ces dernières semaines, de ces derniers mois, là, dans pas mal d'échanges, avec mes collègues, hein, des choses dont on parle pas mal. Un peu l'IA sans data, hein, donc c'est un peu provoque, hein, comme titre, un peu aguicheur. Quelque part, c'est ma manière de l'introduire, c'est un peu dire, est-ce qu'on a encore besoin de données pour faire de l'intelligence artificielle? Alors là, c'est sûr que dit comme ça, ça peut, ouais, c'est clairement provocateur, on va pas se mentir.
Clairement, donc, ça, là, c'est vraiment beaucoup, là.
beaucoup, mais c'est pas grave, je l'assume complètement parce que c'est une manière d'accrocher, justement, et comme ça, je me dis que vous allez écouter jusqu'au bout, en vous disant, mais à quel moment il va nous dire qu'on n'a plus besoin de données pour faire de l'IA, quand même, hein. Alors ça, c'est... non, je vais pas spoiler la fin tout de suite. On va le garder pour plus tard. Pour moi, cette idée-là, justement, d'être capable de faire de l'IA sans avoir besoin de données, c'est un peu la dernière d'une série d'évolutions qui ont marqué un peu l'histoire de l'intelligence artificielle depuis pas loin de 40 ans, hein, même maintenant, même un peu plus. Un peu plus de 40 ans. Et ce que je te propose, hein, si ça te va, c'est de faire un peu justement passer les différentes étapes clés de l'intelligence artificielle, parce que tout ça, en fait, on repose aujourd'hui sur tout cet enchaînement-là, pour arriver à la fin on va dire la nouvelle manière de faire de l'intelligence artificielle depuis on va dire à peu près 5 ans. Mon opinion, c'est que ça fait à peu près 5 ans qu'on fait plus tout à fait de la même manière que ce qu'on faisait avant.
Ouais, quand la dernière évolution a eu lieu, mais effectivement, c'est un très vieux concept. Mathématiquement parlant, ça remonte à notre très jeune temps, même avant même qu'on soit en existence dans certains cas. Donc, c'est des choses qui datent. Puis je pense que les gens oublient d'où ça arrive et que c'est quand même un vieux concept qui n'est pas nouveau, mais la nouveauté, c'est la façon qu'on l'utilise maintenant a évolué beaucoup. Puis faut quand même comprendre d'où ça arrive et comprendre où on s'en va avec ça pour voir la directionnalité que ça prend. Et que d'un côté, le Gen AI ne va pas vers l'intelligence générale, n'est pas dans la même lignée que ça. C'est une autre chose, mais il n'est pas exclu qu'on se dirige vers ce genre de choses-là. Mais le passé va être garant du futur.
Oui, moi je me souviens, hein, quand j'étais au collège, donc ça remonte à on va dire fin des années 90, j'avais un grand cousin qui était une dizaine d'années de plus que moi, je pense, où justement j'avais entendu dire qu'il faisait des réseaux de neurones. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Donc fin des années 90, hein, et c'était pour du pilotage de moteur, je crois. Pilotage au sens de tout ce qui est injection, ces trucs-là, optimiser un peu la consommation des moteurs, utiliser des réseaux de neurones. Donc j'avais pas bien compris ce que c'était à l'époque. Mais en fait, c'est même un peu plus vieux que ça, hein, parce que du coup, j'ai fait un peu mes recherches. Hein. Un des premiers, on va dire, pas tout à fait, enfin c'est pas le premier, hein, mais un de ceux dont on a pas mal parlé, donc c'était le Net 5 en l'occurrence, et c'est en 89, hein, donc 1989. Donc effectivement, ça ne nous rajeunit pas, et tous les auditeurs de ce podcast n'étaient peut-être pas nés à ce moment-là. Moi j'avais 4 ans, non j'avais 5 ans en 89, donc c'était très très loin de mes préoccupations. Le Net 5 en l'occurrence, il a été utilisé pour la lecture de chèques, hein, donc on était déjà dans la reconnaissance, dans la vision, hein, on en reparlera pas mal ensuite, et en fait donc c'était un peu les premiers réseaux convolutifs. Je sais jamais si c'est convolutif ou convolutionnel. Convolutif, je crois. Enfin, les convenettes, hein, on appelle. On ne dit jamais la fin du mot, c'est plus simple. Donc, les convenettes, hein, les premiers convenettes en 89, étaient dédiées justement à la lecture de chiffres. Donc, c'est pour ça, hein, c'est vrai que pour ceux qui font l'IA, on parle souvent du dataset MNIST, M-N-I-S-T, qui est un dataset de chiffres, parce que c'était une vraie problématique. Hein, comment est-ce qu'on fait de la reconnaissance de chiffres, et notamment sur l'échec? Et à une époque, hein, je crois que ces réseaux-là étaient utilisés justement, enfin, dans la majorité. Je crois que le Net 5 a été utilisé à un moment, je crois, dans 50% des analyses de chèques quand même, hein, à l'échelle du monde, hein, ou en tout cas du monde occidental. Donc c'était vraiment très très utilisé, et c'est un peu ça. Ça, donc c'était le début des fameux convnets. Alors sans rentrer trop dans le détail, les réseaux convolutifs. L'idée, c'est d'avoir des, enfin, ce qu'on appelle des kernels, hein. C'est un peu des matrices de détection de patterns, on va dire, de détection de motifs qu'on va faire glisser sur une image. Et en fait, couche après couche, les premières couches vont détecter des motifs simples. Et couche après couche, on va aller sur des niveaux d'abstraction de plus en plus compliqués. Alors pour les chiffres, bon, c'est assez simple, hein, c'est des courbures, etc. Mais si par exemple, bon, réfléchir à de l'analyse d'image un peu plus complexe, de manière très schématique, on peut dire que la première couche, elle va détecter des points, du coup la deuxième couche, elle va détecter plutôt des lignes, c'est-à-dire des combinaisons de points, la troisième couche, elle va détecter des angles, des choses comme ça, des courbes, tout ça, donc des combinaisons de lignes, à peu de choses près, et couche après couche, on va comme ça avoir un niveau d'abstraction de plus en plus compliqué, jusqu'à à la fin être capable de détecter un pneu, un rétroviseur, un volant, etc., et dire « ah bah voilà, c'est une voiture ». Donc ça, c'est le principe de la profondeur des réseaux de neurones. Plus on avance dans les couches, plus on ajoute des couches d'abstraction. Et les réseaux convolutifs sont vraiment très adaptés à ça, parce qu'on va vraiment faire cet empilement de couches, justement, pour atteindre un certain niveau d'abstraction. Donc ça, c'était 89, hein, le début de ces choses-là. Et ça a duré quand même pendant à peu près une vingtaine d'années, hein, le développement comme ça la poursuite, hein, de l'IA, toujours basée sur les réseaux convolutifs. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il y a eu une deuxième coupure qui était en 2012, en l'occurrence. En 2012, il y a eu deux choses qui se sont passées. Donc là, on est quand même vachement plus proche, hein, déjà. Il y a deux choses qui se sont passées en 2012. Il y a eu, première chose, merci à tous les grands amateurs de jeux vidéo, il y a eu les GPU, hein, donc les cartes graphiques. GPU, hein, à la base, c'est Graphical Processing Unit, donc c'est une unité de calcul graphique, hein, donc c'était vraiment utilisé pour les jeux vidéo, enfin pour tout ce qui était vidéo, image, notamment parce que quand on fait du jeu vidéo type FPS, hein, on a en permanence des calculs à faire massivement parallèles d'images, donc la composition d'images, appliquer des textures, appliquer de l'éclairage sur une image, etc. Ça, c'est massivement parallèle. Et en fait, en 2012, Nvidia a basculé avec c'était un peu les premières grosses publications des API CUDA, hein, donc pour faire du calcul assez générique sur des GPU. Et donc là, ça voulait dire que n'importe qui voulait faire du calcul matriciel, par exemple, de manière parallèle, pouvait utiliser une carte graphique Nvidia pour faire ça. Alors, c'est pas pile en 2012, hein. Il y avait des versions avant, il y avait des versions après, etc. Mais c'est vraiment un moment un peu charnière, justement, dans la stratégie d'NVIDIA, où il y a eu des gros efforts faits dessus et où ça a été devenu, à ce moment-là, beaucoup plus facile d'utilisation. Et puis, en 2012, il y a eu une autre chose qui s'appelait ImageNet. ImageNet, c'est un jeu de données qui est encore utilisé aujourd'hui, hein. Il y en a une deuxième version en 2017 d'ailleurs, mais 2012 en fait ImageNet a été publié, c'était un jeu de données, si je me souviens bien, d'un million d'images classées dans 1000 classes différentes. Alors 1000 classes, qu'est-ce que c'est, hein? Ça veut dire chien, chat, table, chaise, statue, raquette, on peut imaginer bouteille, couteau, fourchette, etc. Alors on peut dire 1000, c'est pas beaucoup, pour le vocabulaire, en vrai si, hein. En vrai, quand on cherche un mot, souvent il est dans les 1000. Hein. Voilà. C'est quand même assez précis finalement, 1000 classes d'objets. Et donc 1 million d'images, donc un peu de choses près, hein, c'était 1000 images par objet. Et ça c'est pareil, donc ce jeu de données-là a été publié de manière ouverte à ce moment-là. Et c'est ça qui a permis énormément de développement. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, il y a plein de gens qui ont eu la capacité de faire de l'entraînement sur ce jeu de données. C'est aussi pour ça que quand on regarde historiquement sur cette période 2010-2020, il y a énormément de choses qui s'est développé sur la vision d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées sur ce sujet-là. Et en parallèle, par exemple, sur le côté texte, on viendra bien sûr plus tard là-dessus. Sur le côté texte, c'est allé un peu plus lentement. On avait tout ce qui était réseau récurrent, etc., mais qui avait toujours un certain nombre de limitations, et ce qui fait qu'on arrivait à faire justement de la génération, de l'analyse de texte, jusqu'à quelques centaines de caractères, mais au-delà, souvent, ça devenait très compliqué. Grosso modo. Mais donc, 2012, il y a eu vraiment une révolution, enfin une explosion de l'IA sur ces domaines-là. C'est pour ça d'ailleurs, moi, que j'ai rejoint l'IA en 2016-2017 à peu près, et j'avais déjà l'impression d'être en retard, en fait, hein, quand je me suis lancé là-dessus. D'être un peu, de prendre le train en marche en disant voilà, il y a plein de gens qui font l'IA depuis des années et tout ça, et puis moi je ne commence que maintenant, il va falloir que je rattrape ça. Bon, finalement, hein, quand je vois maintenant le développement de l'IA, de ce que c'est aujourd'hui, finalement je n'étais pas si en retard que ça, et j'aurais pas forcément imaginé à l'époque que ça allait être autant popularisé d'ailleurs, hein, qu'il y aurait autant de monde qui en ferait, donc finalement j'étais pas tant que ça dans les derniers. À l'époque.
Non, c'est ça, toi, t'es arrivé au moment où l'usage, où justement ces lots de données-là d'images ont permis une avancée quand même assez majeure dans l'élaboration des modèles, l'élaboration des technologies qui sont associées avec ce genre de choses-là. Et justement, cette effervescence-là nous amène quand même plus loin en termes de choses, puisque les gens ont joué suffisamment longtemps pour découvrir les limitations. Et d'aller de pouvoir se projeter un petit peu plus loin aussi. Là.
Et exactement. Et cette époque-là, c'était l'époque 2012-2017, c'était vraiment, 2012-2020, on va dire, c'était vraiment énormément de développement sur l'aspect mathématique des choses, sur tout ce qui est convergence, entraînement, optimiseur, régularisation, enfin voilà, stabilisation, de ces modèles-là, il y a eu beaucoup de travail là-dessus justement, et toujours un peu sur le même cas d'usage qui était l'image et les réseaux récurrents pour un certain nombre de choses. L'étape suivante pour moi, ça a été en 2017, hein, donc c'est pas longtemps après, hein, non plus. Et là, on n'est pas dans l'aspect mathématique, on est dans l'aspect architecture des modèles. Et 2017, c'est la publication qui s'appelle Attention is All You Need, sur ce qu'on appelle les modèles transformers. Et là, on va pas se mentir, hein, c'était 2017, mine de rien, hein, on est en train de dire que c'était il y a 8 ans. Et donc, quand on réfléchit à l'évolution de l'IA aujourd'hui, on pourrait dire que c'était la préhistoire. Et pourtant, tous les modèles d'IA d'aujourd'hui sont, quasiment tous les modèles d'IA d'aujourd'hui sont basés sur les transformers. Donc ce papier-là, hein, Attention is All You Need, a été vraiment fondamental. Et donc, il a introduit cette architecture, le principe du transformer. Pareil, on ne va pas rentrer dans le détail complet parce que là, je pense qu'il faudrait un épisode de Polysécur entier. Le principe du transformer, c'est de dire, plutôt que d'analyser par exemple un texte caractère ou mot par mot, on va dire mot par mot, hein, on va, en fait, à chaque fois qu'on va analyser un mot dans un modèle, on va regarder sa corrélation. Enfin, surtout, on va regarder ce qu'on appelle l'attention. Chaque mot va faire de l'attention sur tous les mots précédents de la phrase. C'est-à-dire que chaque mot va s'analyser par rapport à ce qu'il veut dire, par rapport aux autres mots de la phrase. Et si je dis, bah, par exemple, justement, chaque mot va s'analyser, enfin, chaque mot va être analysé, on va dire, voilà, si on regarde cette phrase-là, chaque mot va être analysé. Au moment où on travaille sur le mot « analyser », en fait, on va devoir faire de l'attention sur « mot », notamment sur chaque mot qui est avant, pour savoir, OK, qu'est-ce qui est analysé à ce moment-là. On va faire de l'attention aussi sur les verbes qu'il y a avant, etc. Et l'idée, hein, dans un modèle transformer, c'est que couche après couche, on va enrichir. C'est-à-dire que sur la première couche, on va avoir juste analysé tout court et tout seul. Puis en dessous, avant, on a chaque qui est tout court, mot qui est tout court, va être. Tous ces mots sont distincts vraiment les uns des autres. Et en fait, couche après couche, chaque mot va s'enrichir du contexte des précédents. Et dans les dernières couches, on sait très exactement ce que cette phrase veut dire dans sa globalité, et on va être capable potentiellement, bah, par exemple, de prédire le mot suivant ou faire de la classification. Par exemple, ça a été beaucoup utilisé dès le début pour l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse de sentiment. Donc c'est, enfin, par exemple, on prend des messages type tweet ou type commentaire sur un article sur une place de marché, par exemple, est capable de dire est-ce que ce texte-là est positif ou négatif. Voilà. Maintenant, on va même plus loin, est-ce que ce texte-là est ironique ou pas? Est-ce que ce texte-là a de l'humour ou pas dedans? Enfin, voilà, maintenant, avec les transformers, on peut aller très loin. Et en fait, justement, les modèles vont analyser couche après couche, vont mélanger un peu tous ces mots ensemble de manière très sémantique pour à la fin arriver à une conclusion assez complète. Hein. Et aujourd'hui, enfin, c'est vraiment le mode enfin, c'est l'architecture prédominante dans tous les modèles qu'on trouve qui sont à l'état de l'art. Une limite des transformers, une grosse limite des transformers, c'est leur coût de calcul. Et notamment, alors pas juste le coût de calcul, enfin c'est vrai qu'aujourd'hui on dit il faut aligner des GPU, etc. etc. C'est pas tant, enfin c'est entre autres dû à cette architecture, mais pas seulement le fait qu'il faille aligner beaucoup de GPU. Le problème des transformers, c'est qu'ils sont quadratiques dans la longueur de la séquence. C'est-à-dire que si on multiplie la longueur de la séquence par 2, on multiplie la quantité de calcul par 4. Donc du coup, très vite, ça devient extrêmement coûteux de faire des transformers. Si les séquences sont un peu longues, donc les premiers transformers, hein, on était sur 256, 512, 1024, hein, genre, assez souvent 1024 tokens. Bon, pour simplifier, un token, c'est un mot, chose près, 1024 mots. Et c'était une vraie barrière, hein, d'être capable d'aller au-delà de ça. Ça consomme beaucoup de mémoire, etc., beaucoup de calculs. Et j'ai envie de dire, sur les 8 ans depuis que les transformers sont devenus prépondérants comme ça, les très grosses évolutions de l'architecture, c'est surtout comment rendre ce calcul non quadratique. Donc il y a les linear transformers, il y a les sparse transformers, enfin voilà, il y a plein de méthodes pour faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à monter à des transformers qui ont des contextes de 1 million, voire je crois que c'est 2 millions, un des derniers modèles de Mistral là, en open source, hein, là on parle de modèles open source, qui arrivent à avoir des longueurs de contexte jusqu'à 1 à 2 millions de tokens. Donc là où ça devient énorme, clairement, pour faire ça, ça veut dire qu'ils ont résolu le problème du quadratique, hein, c'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques qui font que ce n'est plus quadratique. Mais c'est quand même une grosse limite, et c'est vrai que si on n'y fait pas attention, c'est quelque chose sur lequel on se heurte assez rapidement quand on entraîne un modèle de type transformer.
Oui, puis les coûts qui sont inhérents à ça sont fantastiques aussi, en termes de un, pour l'entraîner, puis deux, pour l'utiliser. Justement, tu parles de la fenêtre d'attention du modèle est quand même limitée, parce que sinon ça va exploser les coûts de façon assez importante. Et chaque bond avant est peut-être plus autant quadratique comme tu mentionnes, mais quand même amène des coûts très, très importants. Plus on essaie de l'augmenter sans trouver des stratégies mathématiques pour réussir à condenser ça dans un petit, même si les GPU sont très parallèles, ça en prend énormément quand même pour arriver à quelque chose qui fait du sens.
Bah, la solution de facilité, c'est de se dire, je vais faire une levée de fonds et je vais mettre plus de GPU. Hein. Globalement, il y en a un certain nombre qui le font, on va pas se mentir. Heureusement, aujourd'hui, on peut faire effectivement mieux. Hein. Les modèles, hein, enfin, c'est DeepSeek, hein, a pas mal travaillé sur les architectures, justement, sur ces sujets-là. DeepSeek 3.2, par exemple, change un peu la manière de faire l'attention. DeepSeek 3.2, ils ont été malins d'ailleurs, parce que j'ai vu ça il y a très récemment. Ils ont publié un premier modèle expérimental au début qui avait des performances pas très bonnes, pas exceptionnelles, on va se dire. Mais c'était juste pour que l'écosystème se mette à la hauteur. C'est-à-dire que comme ils avaient inventé un peu une nouvelle manière de faire de l'attention, ils s'étaient dit, si on sort tout de suite notre modèle, les outils d'inférence, les outils que les gens utilisent pour déployer le modèle vont pas être à la hauteur. Et donc ils ont sorti un premier modèle qui était pas très bon, mais juste avec la bonne archi, pour que tous les outils se mettent à la hauteur. Et comme ça, 2 mois plus tard, ils ont publié juste les poids d'un nouveau modèle qui lui explose du coup tous les autres. Donc c'est vrai que typiquement, les entreprises chinoises n'ayant pas trop accès à la même puissance de calcul, ils cherchent pas mal d'optimisation de ce style.
Ouais, mais les contraintes amènent beaucoup d'innovation. Puis ça, c'est les gens s'en rendent pas compte. Tu parles de force brute, c'est sûr qu'on peut être t'alignes beaucoup de GPU puis beaucoup d'argent. Oui, effectivement, on va arriver à quelque chose. Mais la vraie innovation, on se fait quand il y a des contraintes et de trouver comme des façons de se départir de ces contraintes-là pour continuer à avancer, aller plus loin. Puis justement, les Chinois sont dans cette réflexion-là. J'aimerais que tu fasses un petit crush sur les modèles d'inférence parce que c'est beau d'avoir changé l'architecture de la façon de fonctionner, mais les modèles, les processeurs qui utilisent ça, en tout cas les logiciels qui les font vivre, doivent évoluer. Puis effectivement, quand on a des modèles, des logiciels locaux comme Ollama ou LM Studio, ça a pris justement quelques temps avant qu'ils soient capables d'absorber les modèles de DeepSeek notamment parce que le moteur n'était pas adapté pour le traitement qui était avec ces types d'entraînement-là.
Effectivement, hein, enfin moi j'utilise pas mal VLLM aussi. C'est assez fort hein, toute l'ingénierie qu'il y a dans ces outils-là, qui sont des outils open source, qui doivent à la fois travailler sur des optimisations de performance énormes pour traiter des requêtes en parallèle, etc. Alors ils sont tous différents, hein, mais par exemple Ollama est plus dédié aux requêtes séquentielles, alors que VLLM va vraiment faire du parallélisme. Si vous traitez des milliers de clients, des choses comme ça, Ollama est assez adapté pour un usage, je dirais, personnel, etc. Et effectivement, donc ils doivent à la fois mettre toutes leurs optimisations et puis bah, suivre un peu hein, quand il y a des nouveaux modèles. Alors de plus en plus aussi, les éditeurs vont eux-mêmes, typiquement DeepSeek ou je sais, enfin Mistral. C'est vrai que je cite pas mal Mistral parce que étant français, on les connaît bien forcément. Ils travaillent aussi, hein, ils font eux-mêmes des ajouts de code dans ces produits-là. Par exemple, la dernière sortie là, des modèles Mistral 3, en fait, on l'a su, je dirais, 24 heures avant, hein, qu'il y a quelque chose qui se tramait parce qu'ils avaient fait des pull requests, hein, donc des demandes d'ajouts de code dans plusieurs outils. Et qui clairement était marqué Mistral 3, etc. Enfin voilà, c'était assez évident qu'ils allaient faire une publication. Donc justement, ils participent à ça. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup hein, Mistral et les modèles chinois, parce que je dirais que c'est les gros acteurs aujourd'hui du marché de l'open source. Hein, si on regarde un peu l'écosystème, hein, en gros, il y a le modèle un peu américain. Donc Anthropic, Gemini, enfin Anthropic donc c'est Claude, Gemini chez Google, ChatGPT chez OpenAI, etc. Eux vont être très dans le source fermé, hein, clairement. Les Chinois, eux, bah, à mon avis, ils se sont dit si on veut casser le business des Américains, il faut faire de l'open source. Donc voilà. Mistral, je pense que c'est un petit peu différent. Il y a peut-être plus de conviction, on va dire, derrière aussi au niveau du partage. Et finalement, quand on regarde généalement, les modèles propriétaires aujourd'hui sont un peu au-dessus, hein, quand même, mais de moins en moins. Et puis après, il y a la course, hein, c'est-à-dire que chaque modèle, quand il sort, il est le meilleur, et puis un mois plus tard, c'en est un autre, et puis après, c'est de nouveau chaque éditeur, comme ça, se renvoie la balle. Et clairement, quand on regarde, par exemple, Mistral avait été les premiers à vraiment faire du Mixture of Experts, il y a 2 ans, qui a été repris maintenant, c'est devenu le standard dans tous les autres modèles, y compris les modèles chinois. Les modèles chinois ont ajouté d'autres choses, les Quen et DeepSeek, qui sont aujourd'hui présentes quand on regarde dans les modèles de Mistral. Enfin, voilà, tout ça, ça avance en se renvoyant la balle à chaque fois et en se renvoyant les bonnes innovations. Et d'ailleurs, tout ça me fait dire qu'on est déjà passé à l'étape suivante, hein, parce qu'on était en 2017 sur les Transformers, et finalement, très vite, on a basculé sur... Bah, ce qui est un peu une révolution, hein, on va pas se mentir, qui était il y a 3 ans, hein, maintenant. J'ai toujours besoin de regarder quand c'était, parce que je sais jamais si c'est... Mais c'est il y a pas si longtemps que ça. Il y a 3 ans, bah, c'était donc je crois novembre, hein, mi-novembre 2022, c'était la sortie de ChatGPT, hein, premier du nom. C'était pas le premier modèle sorti par OpenAI, hein. Ils travaillaient déjà, il y avait les Dolly sur l'image, ils avaient déjà travaillé sur les GPT-2, mais là c'est GPT-3 en l'occurrence, en mode privé, clairement. Et alors, c'est une révolution, non pas. Enfin, techniquement, c'était un peu mieux que les autres, hein, que les précédents, mais en fait, c'est une succession de marches qui fait que. Et là, il y a eu tout un travail sur l'écosystème, sur l'outil, sur l'interface, etc. qui a fait que vraiment d'un coup c'est devenu à la fois beaucoup plus utilisable qu'avant de par la performance mais aussi de par la suite logicielle qui était autour, le mode d'interaction dans l'interface et tout ça, et c'est ça qui en a fait une révolution. En fait, c'est une évolution qui a atteint le niveau d'une révolution à ce moment-là, ChatGPT. Et après, bah, y a eu toute la suite, hein, qu'on connaît, justement, depuis ça, des différents modèles d'IA générative, beaucoup de progrès sur l'image aussi, mais là, maintenant, c'est vrai que le gros standard sur lequel énormément de monde travaille, c'est le texte, hein, clairement, depuis 3 ans, et c'est devenu vraiment quelque chose voilà, à la fois très répandu, de très étudié, mais aussi qui est complètement sorti des usages d'experts. Donc ça c'est aussi une vraie différence là-dessus. Et finalement, pour finir...
C'est la grande révolution que OpenAI a amenée, c'est de mettre dans les mains de tout le monde ce qui était dans les laboratoires avant. Parce que là, autant OpenAI a travaillé en clos, Google en avait déjà des travaux qui étaient amorcés, mais pas dans du GenAI comme on le connaît maintenant. Apple on en avait, Microsoft en avait, tout le monde en avait dans leur petit laboratoire. Et là, eux autres ont dit, ben, c'est fini les laboratoires, on met ça dans le vrai monde, on le teste dans la vraie vie avec du vrai monde, pas juste des experts. Donc, d'aller en fou comme ils ont fait.
Oui, exactement, en prenant les risques, hein, parce que derrière, c'est vrai que tout le monde a regardé tout ce qui était lié aux hallucinations, aux dangers aussi, hein, demander la recette de comment faire une bombe ou un truc comme ça, voilà, enfin tout ce qui s'en est suivi sur l'étude des jailbreaking de modèles, tous ces sujets-là, qui ont dû se développer forcément à partir du moment où les modèles étaient beaucoup plus diffusés, c'était absolument nécessaire. Et finalement, pour revenir justement sur le sujet que je disais au début, parce que pour l'instant on est, enfin, c'est peut-être la question, mais où est la donnée dans tout ça, hein, parce que là on parle, enfin, ce qui a permis ChatGPT, c'est une quantité extraordinaire de données, hein. Clairement ils ont entraîné ça sur beaucoup 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 de données. Je n'irai pas sur les aspects légaux de tout ça, etc., parce que c'est extrêmement compliqué de savoir s'il y a de la donnée personnelle ou pas. Est-ce qu'il y en a utilisé dans l'entraînement? Est-ce que c'est fait sciemment ou pas chez un éditeur ou chez d'autres? Voilà, aujourd'hui, ça c'est des sujets que je laisse clairement aux juristes. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, pour ces modèles-là, il y a besoin d'une quantité extraordinaire de données pour les entraîner. Mais finalement, ma position là-dessus, hein, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de gens qui font de l'intelligence artificielle. Même des milliards. Hein, on ne va pas être loin. Même de milliards de gens qui utilisent de l'intelligence artificielle. Pourtant, personne n'entraîne de modèle et personne n'a utilisé de données. Et elle est là, pour moi, l'IA sans données. Parce que avant, quand on disait « je fais de l'intelligence artificielle », ma société développe des modèles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que je possédais des données, que j'avais, je fais de la cyber, j'ai des logs, par exemple des journaux d'activité, ou bien j'ai des virus, etc. Et grâce à toute cette base de données que j'ai sur ce sujet-là, je peux développer des modèles d'intelligence artificielle, les entraîner et faire de la détection qui est potentiellement sans commune mesure avec ce qui se faisait avant en termes de détection où il fallait écrire des règles à la main. Voilà, ça, c'était ce qu'on appelait faire de l'intelligence artificielle. Depuis, du coup, je dirais à peu près de l'ordre de 5 ans. Un peu plus en réalité, mais c'est toujours pareil, c'est une évolution qui se fait de manière progressive, parce que c'est même pas encore 100% aujourd'hui. Mais je dirais que depuis à peu près 5 ans, on n'a plus forcément besoin de cette donnée, justement, pour faire de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Bah parce que on va être capable d'utiliser des modèles qui, eux, ont déjà évidemment à gérer de la donnée. Et en fait, on peut arriver sur un modèle comme ça et du coup l'utiliser tel qu'il est sur sa, alors un peu ce qu'on appelle la modalité, hein, sur sa propre modalité, ou plutôt sur son propre sujet. C'est-à-dire que si moi je suis développeur ou je fais de la cybersécurité ou je suis alors médecin, on va éviter parce que médecin il peut y avoir des dangers quand même. On va dire jardinier, voilà. Je peux aller interroger ChatGPT pour lui poser des questions sur mon métier. Et en fait, j'ai pas eu besoin de lui donner ma base de code ou de lui expliquer comment cultiver des patates douces. Et en fait, il le sait déjà. Il sait déjà énormément de choses. Et donc, il va pouvoir, je vais pouvoir utiliser ce modèle-là et donc, quelque part, faire de l'intelligence artificielle sans avoir apporté la moindre donnée. Et ça, c'est une vraie révolution. Et c'est ce qu'on appelle, hein, dans le jargon, et c'est pour ça que finalement, enfin, ça existe quand même depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation. Toutes ces choses-là, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, un modèle de fondation. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un modèle qu'on a entraîné avec énormément de données, mais sans forcément le dédier à une tâche finale. Ça se faisait justement beaucoup dans les images. Dans les images, on entraînait des modèles justement, bah, ImageNet, hein, dont je parlais tout à l'heure, c'était le début aussi des modèles de fondation. C'est qu'on entraîne des modèles à comprendre des images. Et on va revenir aussi sur les modèles auto-supervisés ensuite, self-supervised. En fait, on apprend un modèle à comprendre des images sans les lui expliquer. C'est ça qui est rigolo aussi. On va pas forcément devoir à chaque fois lui expliquer. Et finalement, le modèle va déduire comment est-ce qu'on comprend une image. Et après, on va se dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce modèle-là ? Je vais faire de la détection, tiens. Je vais le monter dans une voiture et il va me dire s'il faut tourner à gauche ou à droite. Je vais un peu exagérer ça quand même. Il en faut plus que ça. Mais c'est un peu ça, l'approche d'un modèle de fondation, c'est qu'on entraîne un modèle tout seul, en lui apportant, je vais pas dire qu'on lui apporte pas de savoir, hein, parce que c'est pas faux, c'est pas vrai. On va pas lui apporter, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas forcément lui apporter de données à noter. Hein. On veut lui apporter de la donnée brute, beaucoup, beaucoup de données brutes, et il va se débrouiller tout seul pour, entre guillemets, la comprendre. Et après, on va dire, bon, bah, maintenant que tu sais faire, je vais te dédier à ma tâche. Et là, on va continuer un peu l'entraînement. Ça, c'est une approche qui est assez nouvelle et qui change beaucoup de choses dans les rapports, enfin, un peu presque les rapports de force autour de la donnée. Parce que, avant, ce qu'on disait, moi je me souviens, hein, quand on commençait à faire de l'intelligence artificielle, je disais aux gens surtout, gardez de la donnée. Hein. Enfin, si vous avez de la donnée, gardez-la. Hein. On viendra vous voir plus tard, hein, voir ce qu'on peut en faire. Et puis, si possible, annotez-la. Hein. Si vous pouvez nous dire, voilà, ça c'est de la donnée de tel truc, ça c'est un capteur machin, ça c'est tel objet, etc. Bah, ça aura énormément de valeur pour quand on va vouloir entraîner des modèles dessus. Maintenant, c'est moins nécessaire de faire ça, parce que maintenant, ce qu'on va dire aux gens, c'est gardez de la donnée. Et puis si vous en avez un petit peu qui est de meilleure qualité, ce sera pas mal. Hein, donc à noter, etc. Et j'expliquais récemment, dans le domaine militaire, hein, notamment, si on prend un peu le parallèle avec l'être humain, sur ce que c'est qu'un modèle de fondation. J'expliquais justement à des gens récemment, un enfant, quand il est petit, il voit des objets, il voit des choses. Il voit, alors au début il voit des cubes, il voit des carrés, tout ça, il essaie de les empiler, tout ça, et puis il voit papa, maman, il voit des visages, il voit des trucs, puis après il sort dehors, alors il voit des petits papillons, tout ça, il souffle et ça fait des bulles, il observe, alors ouais, il souffle et ça fait des bulles, c'est rigolo parce que les bulles elles montent, elles descendent, en plus quand il y a du vent ça bouge, ouais, et puis en fait il observe toutes ces choses là, puis il grandit un peu, hein, voilà, après il fait du cerf-volant, et puis après il fait des trails en forêt, etc. Et puis finalement il arrive à l'âge de 20 ans, et ben c'est un excellent modèle de fondation. Parce que il a vu plein de choses dans pas mal de domaines, et typiquement en vision, il va être, enfin normalement, hein, sauf handicap ou quoi, hein, il va être très bon justement. Et ben c'est ça un modèle de fondation. Il va avoir vu plein de choses et il va être très bon dans un modèle. Et là, à 20 ans, je veux dire, une personne de 20 ans est directement employable sur tout un tas de tâches. Hein. Parce que bah, il a des bras, des mains, il sait, voilà, il sait faire des choses, il sait voir des choses. Mais on va quand même faire des études. Hein. Des études supérieures, par exemple. Alors moi, c'est vrai que c'était assez spécifique. Hein, la discussion que j'avais, c'était dans le domaine militaire. Donc on va dire, voilà, il va faire une école militaire, etc. Mais bon, ça peut s'appliquer à peu près dans n'importe quel domaine. Hein. Et en fait, dans ces études, ce qu'on va lui apprendre, c'est de dire, ben voilà, tu es un être humain, donc tu es un excellent modèle de fondation pour la vision. Mais ton métier, ça va être de, je sais pas si on prend par exemple un géomètre, voilà, ça va être de travailler sur des plans, de décrire des plans, de lire des plans, etc. Et donc pendant des années, il va s'entraîner sur des plans. Et du coup, à la fin, il va être hyper, hyper, hyper bon sur des plans. Et ça, c'est la phase de spécialisation, justement. C'est un peu la phase de réentraînement où on va prendre notre modèle et on va lui ajouter des connaissances spécifiques dans un métier, justement, pour qu'il soit excellent dans ce métier-là. Et alors, il est évident que quelqu'un qui n'a jamais vu une image de sa vie, si on lui dit qu'il faut qu'il vienne géomètre, ça va être compliqué. Mais un être humain qui a grandi jusqu'à 20 ans en regardant des images, ça va être plus simple. L'autre parallèle que je prenais à l'époque sur la partie cyber, hein, c'était vous prenez un excellent développeur qui connaît 50 langages et vous lui dites je vais t'entraîner à la rétro-ingénierie de code, donc à lire de l'assembleur pour comprendre ce que fait un logiciel, etc. Globalement, il va plutôt bien s'en tirer. Vous prenez quelqu'un dans la rue qui a jamais développé de code informatique et vous lui dites voilà, je vais te montrer des malwares, enfin je vais te montrer des virus et je vais te montrer des codes, etc. Et il va falloir que tu apprennes à faire la différence. Ça va être beaucoup plus dur parce que lui, il n'aura pas eu le pré-entraînement, justement. Voilà. Donc, c'est ça la distinction. Le pré-entraînement, c'est de la donnée générique, de la connaissance générique, en fait, qu'on va inculquer au modèle. Et après, on va faire la partie un peu spécialisation. Et surtout, si je reprends d'ailleurs l'exemple de notre développeur, un développeur expert qui, même limite, qui ne connaissait rien à la cybersécurité, hein, je pense que je lui montre, 100 virus informatiques. Et sans fichiers de code bienveillant, etc., je pense qu'il saura détecter le virus. Je pense qu'il aura compris ce que fait spécifiquement un virus, etc., etc. Donc en fait, là, on voit un peu l'ordre de grandeur du nombre d'exemples qu'il faut lui montrer. À l'inverse, quelqu'un qui a jamais fait de code informatique, et d'ailleurs même un modèle qui a jamais été entraîné, qui a jamais vu de code informatique, en se disant tiens, je vais entraîner un modèle à détecter du code, enfin détecter des virus, il va falloir des millions, même des milliards d'échantillons pour qu'il comprenne d'abord ce que c'est qu'un code, à quoi ça ressemble, et finalement qu'il arrive à dire ok, et donc un code malveillant c'est ça et un code bienveillant c'est ça. Et en fait, c'est là où le rapport de force en termes de données change complètement, parce que là où avant il fallait des millions, voire des milliards de données pour entraîner des modèles, des données annotées, justement. Aujourd'hui, il faut beaucoup de données non annotées, et puis juste un tout petit peu de données annotées, et ça suffit à avoir un modèle qui va avoir la même performance.
Donc, s'appuyer sur les épaules d'un géant, qui sont les modèles de fondation qui, eux, comme puis j'adore ton exemple, du jeune de 20 ans qui a vécu, qui a appris à travers la vie. Et après ça, ben là, on est capable de l'amener plus loin avec peu d'efforts que si on partait littéralement de zéro et de l'amener jusqu'à une tâche très, très spécialisée. Puis bon, dans le cas de malware, dans le cas de pour faire état de ton passé chez Glimpse notamment, où justement, tu travaillais très fort là-dessus. Donc, c'est intéressant de voir ça. Là, c'est là tu parles de peut-être 100 cas pour apprendre cet élément-là. Ensuite, comment on passe à pas de cas à être capable de partir d'aller justement maîtriser et détecter?
Le gros enjeu, c'est de réussir à avoir des modèles qui soient fiables, justement, et qui aient compris. Encore une fois, il y a tout l'aspect, soit ils ont appris, soit ils ont compris. Et en fait, ce qu'on veut à la fin, c'est que le modèle ait compris. Pas juste qu'il ait appris. Et c'est ça toute la subtilité. Et souvent, justement, quand on n'a pas assez de données, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que si on n'a pas assez... Un modèle pour être capable de faire, par exemple, une bonne détection, il va avoir besoin d'être gros. Un tout petit modèle je caricature, je simplifie énormément, mais l'intelligence d'un modèle est à peu près proportionnelle à sa taille. Le problème, c'est qu'il faut que le jeu de données aussi soit proportionnel. Et si on respecte pas ça, si on met trop de données, non, si on met pas assez de données dans un trop gros modèle, eh ben, il va apprendre par cœur. Il va pas comprendre. Et du coup, quand on n'a pas beaucoup de données, ben, on est très embêté parce que si c'est une tâche très facile, alors, ou on va dire moyennement facile, mais donc, quand je parlais d'intelligence artificielle, quand on en parlait tout à l'heure, avant qu'on attaque ce sujet un peu des transformers et des révolutions et des modèles de fondation, etc., ce qu'on faisait, c'était, on voulait entraîner un modèle, je sais pas, par exemple, je suis un assureur et je veux prédire si quelqu'un va avoir un accident ou pas, bah, je prends mon tableau de données, d'accidents et tout ça, et en fait je vais entraîner un modèle avec ça, et puis à la fin je vais avoir un score de prédiction qui me dit voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement va avoir des accidents ou pas. Si par exemple je suis banquier, je veux faire des cours de bourse, je vais faire pareil, hein, je vais prendre plein d'historiques de cours de bourse, je vais entraîner des modèles dessus à faire de la prédiction, et du coup hop, je saurai prédire le cours de bourse de demain de telle ou telle action. Mais le problème, c'est que si j'ai pas assez de données, enfin, si c'est un problème très complexe, en fait, il faut que j'ai plus de données. Et potentiellement, j'en ai pas. L'avantage du modèle de fondation, c'est que comme on part d'une base assez importante, finalement, voire très importante, en fait, le modèle est déjà intelligent. Il a déjà cette compréhension-là. Et donc, j'ai besoin de beaucoup moins de données derrière pour faire la prédiction. Si je reprends l'exemple des cours de bourse, par exemple, ça c'est assez récent, hein. Les modèles de fondation, en gros, il y en a beaucoup sur le texte évidemment, sur l'image, sur un certain nombre de modalités, sur la vidéo. Et je dirais ces derniers mois, il y a beaucoup de travaux sur tout ce qui est séries temporelles. Il y a deux choses, il y a données tabulaires et séries temporelles, c'est un petit peu différent, mais il y a eu beaucoup de travaux ces derniers mois là-dessus, de gens qui font justement des modèles de fondation sur de la donnée tabulaire ou sur des séries temporelles. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre plein de séries temporelles, donc des cours de bourse, de la météo, par exemple, du trafic routier, voilà, le trafic à tel endroit, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, de facteurs humains ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut être justement la météo, c'est pas... Alors, quelque part, si la météo maintenant, mais enfin le climat en tout cas, mais voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là, il y a énormément de facteurs humains sur le climat, mais en tout cas, voilà, ils vont prendre des séries temporelles de modalités très très différentes, et ils vont entraîner des modèles de fondation là-dessus, à faire justement, par exemple, de la prédiction de séries temporelles. Et depuis assez récemment, justement quelques mois en gros, les modèles entraînés comme ça commencent à dépasser les modèles spécialisés. Donc le banquier qui entraînait des modèles uniquement sur ses cours de bourse, et ben maintenant, et ben il faut aussi qu'il les entraîne sur les données du trafic routier sur le périph' de sa ville. Quoi. C'est un petit peu ça, c'est un peu caricatural, mais on n'en est pas loin, parce que finalement, les modèles de fondation en série temporelle deviennent tellement bons qu'ils vont être capables de dépasser des modèles spécialisés, et notamment parce que eux, les modèles de fondation auront été entraînés sur suffisamment de données, là où les modèles spécialisés potentiellement avaient atteint une limite et ne pouvaient pas être entraînés sur plus.
C'est un peu comme ton exemple de jeune qui arrive à 20 ans, a déjà une base, donc va être capable d'aller plus loin avec ce qu'on va lui donner. Donc, l'entraînement complémentaire pour arriver à une maîtrise spécifique est beaucoup moins longue parce qu'on a déjà une bonne base et probablement le résultat est beaucoup meilleur parce que de son expérience de vie, il est capable d'en tirer des conclusions, donc de comprendre, pour reprendre les termes que tu utilises, les comprend, il va comprendre la série temporelle, il va être capable de se projeter dans celle-ci, donc ces modèles-là se trouvent être supérieurs. C'est des entraînements spécifiques par-dessus un modèle fondamental, c'est bien ça?
Oui, ça c'est un entraînement par-dessus. Après, il y a quand même aussi, globalement, les meilleurs modèles, hein, généralement, sont pas forcément des modèles spécialisés. Typiquement, si on regarde pour le texte, le code, etc., les meilleurs modèles, tels le DeepSeek, tout ça, sont des modèles qui restent quand même très très généralistes. Cependant, ils ont quand même un défaut, c'est qu'ils sont énormes, ces modèles-là. Et on l'a dit tout à l'heure, ça, il y a un problème, hein, il y a un problème, mais en tout cas un vrai sujet, hein, sur tout ce qui est consommation, tout ce qui est embarquabilité, hein, aussi. Aujourd'hui, si je veux un modèle qui m'aide pour faire du développement, j'ai pas forcément envie d'avoir besoin de déployer une baie entière de serveurs, juste pour m'aider à coder trois fonctions. Mais c'est vrai que ces modèles-là, en fait, ont été entraînés sur tellement de données que ils vont être très très bons dans tous les domaines. Et potentiellement, alors ça, c'est des choses, j'attends encore de voir un peu les études là-dessus. C'est que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est encore possible de les entraîner finalement ces modèles-là? Est-ce que même moi, en tant qu'expert d'un sujet X ou Y, je peux apporter suffisamment de données pour améliorer un modèle de ciblage? Je suis pas sûr. En revanche, je peux probablement utiliser ce modèle-là ou utiliser les capacités de très gros modèles comme celui-là pour obtenir des plus petits modèles qui vont avoir le même niveau. Et ça, ça va commencer à être intéressant aussi. C'est justement de dire, bah, je vais prendre un très gros modèle. Potentiellement, je vais entraîner un très très gros modèle avec des très bonnes compétences. Mais en fait, c'est pas forcément celui-là que je vais utiliser parce que celui-là, il va me coûter trop cher. Donc, je vais prendre un petit modèle. Je vais l'entraîner comme un modèle de fondation. Effectivement, jusqu'à un certain point. Et là, par exemple, bah, si je prends exemple du code, voilà, je prends un petit modèle, bah, il est nettement moins bon qu'un DeepSeek en code. Mais, en revanche, si j'ai à la fois un gros modèle et ce petit modèle-là, là, je vais pouvoir entraîner ce petit modèle sur plein de données, par ce qu'on appelle la distillation notamment, et je vais pouvoir en fait rapprocher et même atteindre les performances du gros modèle avec un petit modèle, mais sur un domaine spécifique, avec de la distillation, avec de la génération synthétique de données, etc., avec les gros modèles. Aujourd'hui, quand on le voit dans toutes les chaînes d'entraînement, notamment des très gros modèles, il y a énormément de données générées par les versions précédentes même de ces mêmes modèles. Et du coup, finalement, c'est pareil, là, c'est les choses qui sont encore à étudier, oui et non, parce qu'on commence à en savoir de plus en plus, mais c'est justement, par exemple, si on prend un DeepSeek, c'est 6 à 700 milliards de paramètres, hein, donc c'est extrêmement coûteux. Quelle est la taille, finalement, minimale d'un modèle plus petit pour que, lorsqu'on le spécialise en code, il atteigne le niveau d'un DeepSeek? Typiquement aujourd'hui, bah, Mistral a répondu, hein, c'est 124 milliards avec DevStral 2, qu'ils ont sorti, je crois, la semaine dernière. Hein. Donc en fait, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Hein. C'est vrai que sur les benchmarks, enfin sur tous les tests qu'ils publient, ils montrent qu'ils dépassent DeepSeek. Ils le dépassent pas dans tous les domaines, hein, évidemment. Enfin évidemment, non, encore qu'ils pourraient. Hein. Mais avec un modèle à 124 milliards de paramètres, c'est quand même très difficile de dépasser un modèle à 600-700 milliards. En revanche, justement, il prouve que sur le domaine donc DevStral dédié au développement, eux, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils arrivent à atteindre le niveau d'un gros modèle comme DeepSeek. Et ça, c'est quand même une vraie prouesse. Et aujourd'hui, c'est ça qui permet quand même d'utiliser des modèles de fondation qui ne coûtent pas trop cher. Ça reste beaucoup, 124 milliards de paramètres, mais c'est quand même plus facile à déployer qu'un truc à 700 milliards.
Oui, effectivement. Puis c'est un peu aussi DeepSeek qui avait un peu brassé l'univers du GenAI il y a quelques temps avec justement la distillation des modèles américains notamment, puis ça avait énormément choqué. Mais c'est rendu maintenant une façon relativement courante de le faire, fait que c'est un peu étonnant de voir, mais en même temps très intéressant de voir cette évolution-là et comme quoi le fait que les Chinois étaient contraints ont réussi à aller plus loin malgré tout, à trouver des façons qui était à l'intérieur des limites dans quelle il était.
Oui, bah, DeepSeek, hein, notamment. Alors, bon, c'est pareil, il y a les chiffres et ce qu'ils veulent dire. Typiquement, moi, je serais un Américain, j'aurais intérêt à dire, dans ma communication, que mes entraînements m'ont coûté extrêmement cher parce que j'ai énormément d'argent. À l'inverse, je serais chinois, j'aurais intérêt à dire que mes entraînements m'ont coûté très peu parce que j'étais très intelligent. Voilà, ce sont deux stratégies assez différentes. Donc, quand on regarde les chiffres, il faut quand même bien les mettre en perspective, tout ça. Un OpenAI, pour moi, évidemment, quand ils donnent des chiffres au niveau des entraînements, et encore, eux en donnent pas. Mais en gros, enfin, les ce qu'on appelle les hyperscalers, hein, quand ils présentent des chiffres et ils disent, voilà, cet entraînement a coûté 800 millions d'euros, je ne sais quoi, ils comptent pas un seul entraînement, ils comptent tous les entraînements qu'il y a derrière, tout ce qui a été fait avant, après, etc. À l'inverse, un DeepSeek, à mon avis, quand ils annoncent que l'entraînement a coûté juste 10 millions d'euros, c'est parce qu'ils comptent juste l'entraînement final. Mais oui, il faut quand même pas nier que ils ont justement fait beaucoup de travaux sur l'optimisation des entraînements. C'était parmi les premiers aussi à entraîner sur des flottants en 8 bits et pas 16, etc. Enfin, ils ont quand même beaucoup travaillé justement sur l'optimisation des performances.
Et ça, ben, ça a brassé le marché. Tu le mentionnes bien, c'est des stratégies de com aussi. Là. On s'entend que quand on lit dans les petits caractères, c'est pas exactement la même chose que ce qui était dans les grands titres dans les journaux, mais effectivement, ça a brassé le marché assez pour que ça ait un effet réel et toute la notion de distillation est devenue très, très présente avec certaines autres façons de transformer les modèles qui sont tous open source maintenant à l'heure actuelle dans ce qu'on utilise.
Oui, exactement. Enfin, maintenant, alors les modèles, typiquement quand je disais, enfin je parlais de distillation et tout ça, il n'y a pas forcément de distillation entre des modèles, on va dire différents. Hein. C'est souvent on part d'un modèle, on le distille et on en fait un autre. Donc c'est ça qui est beaucoup fait. Voire même maintenant, on va entraîner plusieurs modèles en même temps. À la fois le gros et les petits. Il y a pas mal de techniques là-dessus. Ou même on va entraîner un très gros modèle et on va faire plutôt ce qu'on appelle du pruning, c'est-à-dire qu'on va le réduire. Nvidia travaille beaucoup sur ces sujets-là notamment. Donc comment à partir d'un modèle divisé par 2, 3, 4, 10 sa taille, sans entraîner vraiment de nouveaux modèles, mais en supprimant plein de neurones qui servent à rien, etc. Alors ils servent pas tout à fait à rien évidemment, mais on va essayer de calculer au maximum qu'est-ce qu'on peut enlever et combien ça coûte en termes de précision à la fin, par exemple.
Il y a pas de choses comme ça. Et si on reboucle sur le fait qu'on est du sans entraînement ou sans données, comment les choses se dessinent et comment on s'en va avec tout ça et au point où on va arriver essentiellement avec les modèles qui vont partir des fondamentaux sans besoin d'entraînement supplémentaire?
Ben, aujourd'hui, finalement, quand on regarde ce qui reste, quoi, c'est finalement, cette approche modèle de fondation, elle va se faire en deux étapes, je dirais. Première étape, c'est il faut de la donnée, évidemment. Et il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça, hein, quand je dis que les modèles deviennent meilleurs même que le modèle spécialisé, c'est parce que c'est très gros modèles, justement, qui vont avoir été entraînés sur énormément de données. Le gros intérêt, c'est que c'est de la donnée assez brute pour faire ça. Ça va quand même demander potentiellement du nettoyage, des choses comme ça, mais pas de la notation. On va pas devoir forcément annoter toutes ces données à la main, etc. Et ça va demander beaucoup de puissance de calcul. Et une fois que ça c'est fait, on rentre plus dans la phase d'exploitation du modèle de fondation, où là, on va potentiellement adapter le calcul à la cible, donc regarder des sujets comme justement la distillation, etc. On va potentiellement élargir un peu le domaine. C'est-à-dire que dans les données de base, on va avoir des données très très génériques. Et puis on va dire voilà, moi ma spécialisation, enfin c'est un peu ce qu'on a dit hein, sur le réentraînement, on va rajouter un peu de données spécifiques à un métier, par exemple. Il y a des choses sur le médical hein, qui ont été faites là-dessus. Justement, si on part de gros modèles qui sont déjà quand même très très bons, et on va le réentraîner avec plein 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 de données médicales pour qu'il soit vraiment très fin sur toutes ces informations là. Et puis après on va évaluer hein, évidemment est-ce que ça marche ou pas. Donc on peut avoir comme ça cette phase d'élargissement, mais dans pas mal de domaines, c'est vrai qu'on arrive à un stade où les modèles de fondation eux-mêmes sont tellement, enfin ont ingéré tellement de données qu'on peut arriver avec, par exemple, si on prend l'exemple que je prends souvent, c'est la classification détection. Hein, aujourd'hui, on est capable de dire, je prends un modèle, justement, modèle de fondation image, et en fait, je prends juste une image d'un objet. Par exemple, j'en sais rien, d'un ordinateur un peu spécifique, d'une voiture, par exemple. Je prends, il y a une nouvelle voiture qui vient de sortir, donc ce modèle-là n'a jamais vu cette voiture en entraînement. Et ben, je vais pourtant prendre juste une image de la voiture, calculer sa représentation selon ce modèle-là, et du coup, je vais être capable, si j'ai d'autres photos de cette voiture-là, de la détecter et de savoir que c'est la même. Et ça, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire qu'on va plus avoir besoin de faire de l'entraînement sur des dizaines d'images. Et là, on est vraiment, enfin, ce qu'on appelle le zéro shot. Hein. Et donc là, on est vraiment. Alors, évidemment, hein, c'est pas sans données parce que j'ai dit qu'il fallait une image. Mais à un moment, si vous voulez que je reconnaisse cette voiture qui vient de sortir, il va quand même falloir me la montrer. Mais on n'est plus sur un entraînement. On est vraiment sur, j'utilise une image d'un objet et j'ai que ça. Et en fait, grâce à ça, je vais être capable de faire, par exemple, de la détection. Et ça, c'est une vraie révolution hein, pour ceux qui ont ce genre de choses à faire. C'est vraiment une manière différente de faire les choses par rapport à l'IA qu'on faisait avant.
Oui, effectivement, qui prenait beaucoup plus d'entraînement, même dans les modèles prédictifs en plus anciens avant le GenAI, effectivement, ça prenait énormément. On n'était pas capable de les faire vivre dans le temps. C'est aussi l'intérêt des nouveaux modèles, c'est qu'on est capable de les faire vivre, les faire grandir et continuer l'amélioration, même une fois l'entraînement terminé, ils continuent à vivre et à progresser malgré tout dans l'ensemble. Et la boucle de rétroaction, elle est plus directe dans le fonctionnement.
Oui, alors c'est aujourd'hui ce qui est continuous learning, entraînement continu, etc. Alors c'est utilisé encore pas mal. À mon sens, si on se place justement dans la position des hyperscalers, etc. Pour moi, ce qu'ils font, c'est surtout accumuler les discussions qui sont faites plutôt pour entraîner les modèles suivants. Les modèles en eux-mêmes ne sont pas entraînés au fil de l'eau. C'est plus justement de garder ces discussions-là pour pouvoir améliorer potentiellement l'entraînement des modèles suivants. Et notamment, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, hein, mais on a parlé beaucoup du pré-entraînement, on a parlé un peu de l'entraînement un peu du milieu, le mid-training, où on va utiliser des données un peu spécifiques. On n'a pas trop parlé de l'aspect entraînement par renforcement qu'on met généralement en dernier. L'entraînement par renforcement, là, c'est quelque chose d'un peu spécifique où on va dire qu'on a un modèle qui est déjà entraîné. Par exemple, vous prenez justement un modèle de langage qui, il va être très bon, il n'y a aucun problème, il va vraiment répondre. Par contre, si je lui demande de me répondre d'un truc violent, il va le faire. Si je lui demande des contenus sexistes, il va me les générer. Si je lui demande plein de trucs, en fait, alors il y a nos limites, hein, aucun problème, il génère tout ce que je lui demande. Ça, c'est pas forcément, c'est pas top top et c'est pas utilisable et on peut pas le mettre dans les mains de tout le monde forcément. L'apprentissage par renforcement, en fait, il va permettre d'inculquer, c'est un peu inculquer la politesse, quoi. C'est-à-dire que c'est on va pas apprendre grand-chose de nouveau, hein. On va pas lui apprendre des nouveaux trucs. En revanche, on va lui dire ce qu'il peut dire et pas dire et comment il peut le dire. Et c'est vrai que c'est une étape importante hein, dans l'entraînement quand même. Et ce qu'on démontre assez bien, hein, c'est que l'apprentissage par renforcement ne va vraiment pas générer, entre guillemets, hein, des nouvelles connaissances dans le modèle. On va pas apporter de la connaissance au modèle. On va réussir à lui faire sortir les bons comportements qu'il aura déjà vus, finalement. Donc, c'est ce qui est quand même assez ciblé.
Oui, puis ce qu'on voit, ce qui est sorti dans les papiers récemment, c'est qu'ils permettent maintenant au modèle de tricher. Et le fait qu'on lui permet de tricher fait qu'il ne triche plus ou il hallucine beaucoup moins, notamment. Ça donne des drôles d'effets, mais de l'amener dans ces notions-là, de lui apprendre, c'est drôle. Puis on commence de plus en plus à parler des modèles, de leur apprendre des trucs. Comme on va aller plus loin avec quelque chose, comme tu vas reprendre l'exemple que tu mentionnais, le jeune de 20 ans, on lui apprend que ben, c'est pas bien de dire telle chose, ou on lui apprend la manière de vivre comme des humains. Et on est un peu dans cette perspective-là présentement. Là.
Le tricher, hein, ça, je l'avais pas, j'avais pas forcément vu. C'était quoi ce que. Ah, non, je retrouvais pas là ce que j'ai vu justement récemment là-dessus. Bah, si, il y a le sujet des hallucinations, hein, qui a été un vrai sujet et qui aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, va mieux. Hein. Un exemple que je voyais là très récemment, c'était quelqu'un qui avait donné une fausse citation. alors du général de Gaulle hein, en l'occurrence, à plusieurs modèles. Et justement, alors évidemment, la question était un peu subtile, hein, mais c'était, voilà, que voulait dire de Gaulle lorsqu'il disait de Pétain que je sais plus quoi ou de Foch. Enfin bref, là, mon expertise en histoire s'arrête là. Et donc, il disait, lorsqu'il disait tel truc, qui était faux, hein, qui avait été inventé. Et donc, il y avait trois modèles. Je sais plus lesquels ont dit quoi. Il y avait Gemini, ChatGPT et Claude, je crois. Et en gros, il y en a un qui disait, bah, désolé, je suis pas compétent sur ce sujet-là. Donc, je pourrais pas, voilà, l'expliquer. Il y a un des trois modèles qui a dit, vas-y, je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème. Et donc, lui, il a sorti une explication alors que c'était une fausse citation. Et il y a quand même un des trois modèles qui a dit, je suis pas sûr de bien comprendre la question parce que, à ma connaissance, le général de Gaulle n'a jamais dit ça. Et ça, c'est quand même, c'est-à-dire que, autant c'est quelque chose de limiter les hallucinations, faire en sorte que le modèle n'aille pas inventer quelque chose, autant pour moi, c'est quand même encore plus compliqué lorsqu'on lui amène quelque chose de faux, à ce qu'il arrive à dire ce truc n'existe pas. Surtout, dire ce truc n'existe pas pour un modèle de langage, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, c'est quand même... Enfin, je suis d'accord qu'il y a toujours des soucis, des problèmes d'hallucination, etc. Mais les éditeurs le savent, en fait, et il y a énormément de travaux qui ont été faits dessus. Et aujourd'hui, c'est quand même aussi très nettement amélioré sur ce domaine-là.
C'est effectivement énormément avancé depuis. On a fait un grand tour de la question. On va arrêter là pour cette fois-ci. Je pense que c'est un sujet qui ne terminera pas, qu'on va devoir réaborder plus tard. Comme on a déjà fait dans le passé, étant donné que c'est un champ d'expertise qui avance très, très rapidement, les évolutions vont vite. De ce qu'on parlait justement, de ce que tu mentionnais, le fait que maintenant, il est capable de dire qu'il ne sait pas, ce qui est déjà une très proche amélioration. Il y a quelques mois, ce n'était pas comme ça. Et dans quelques mois, on va avoir quelques éléments complémentaires qu'on va pouvoir réaborder là-dessus. Merci encore une fois de ton temps, de ce partage. C'est toujours très intéressant, ces conversations.
Ben, merci à toi. Hein. C'est toujours, enfin voilà, j'apprécie aussi toujours beaucoup de discussions. Juste une petite précision, quand même, hein, je parle ici en mon nom propre, hein, évidemment, et tout ce que j'aurais pu dire n'engagera pas mon employeur. Je préfère le préciser. Je sais que je parle assez librement de ces sujets-là. Et on aborde à la fois de la technique, mais aussi on parle d'entreprise, évidemment. On parle peut-être même de stratégie, etc. Toujours à essayer de décrypter les stratégies et à imaginer comment elles peuvent fonctionner. Évidemment, ce sont des opinions personnelles qui relèvent de mon analyse de la situation et qui ne sauraient engager d'autres personnes que moi.
Tout à fait, c'est très important de le spécifier.
Ouais. Ben, merci beaucoup à toi et donc j'espère à très bientôt.